sensible en politique. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Vacarme, la collection de l'histoire rejouée. Voilà, je ne vous lirai pas l'ensemble de ses publications qui sont données donc sur son site. Elle nous expliquera l'objet de son propos qui ici n'est pas centré sur la révolution. Vous avez travaillé aussi sur la transmission de l'histoire, donc il y a une dimension de la question de l'éducation peut y apparaître, sur les musées aussi, une forme de transmission. Carrel Lyon est spécialiste du syndicalisme. Il a travaillé donc sur l'éducation syndicale. Enfin, il va nous présenter une intervention sur le rôle de l'éducation syndicale et en particulier de FO. Mmh. Il a écrit de nombreux articles sur la représentation du travail, la démocratie sociale co-dirigé un numéro du mouvement social sur les frontières de la formation syndicale dont vous allez vous inspirer aujourd'hui, je pense. Voilà, donc carrément, je vous laisse commencer.
Ok. Eh bien, bonjour aux courageux qui sont restés jusqu'à maintenant. Donc j'ai 20 minutes, une demi-heure, c'est ça? Je pense que ça fera ce temps. Si ça fait un peu moins, ça laissera plus de temps pour la discussion. Oui, en fait, moi, je voulais vous parler de l'éducation syndicale, alors sous une rubrique plus générique qui était celle de l'éducation populaire, mais le lien entre les deux, c'est plutôt d'une certaine manière s'interroger sur les conditions de l'évaporation de ce qui pouvait exister des pratiques de l'éducation populaire dans les dispositifs d'éducation syndicale. Hein, dans cette idée de l'éducation populaire comme un registre d'intervention militant pour produire, fabriquer des citoyens critiques, engagés dans la transformation de la société, réflexifs sur leurs propres pratiques, etc. Et voilà, donc pour vous parler un petit peu de ça, moi je vais vous rendre compte de recherches que j'ai menées avec tout un tas d'autres collègues, sociologues, politistes et historiens, sur les mutations et les usages de la formation syndicale. Plus précisément, je m'appuie aujourd'hui sur un article que j'ai rédigé avec une collègue, Paola Cristofalo, et qui est paru dans le dossier du mouvement social auquel il était fait référence, donc qui est ici, qui est consacré aux frontières de la formation syndicale. La problématique de ce papier, la problématique plus largement de notre recherche sur la formation syndicale, de cette recherche collective, c'était de considérer l'éducation syndicale comme un observatoire des transformations du syndicalisme. Il nous semblait en effet que travailler sur l'éducation syndicale, ça peut être un bon moyen d'étudier ces évolutions, notamment des évolutions idéologiques dans l'action syndicale, sans tomber dans une lecture idéaliste des idéologies, car les dispositifs d'éducation syndicale, c'est en quelque sorte de l'idéologie matérialisée. Ce sont des éducateurs, ce sont des appareils de formation, ce sont des savoirs et des normes qui sont objectivés dans des supports pédagogiques. Donc travailler sur ces éléments empiriques, c'était un moyen de questionner un peu à nouveau frais des évolutions qui avaient pu être abordées anciennement par notamment des politistes en termes d'évolution de grandes idéologies un petit peu désincarnées, planant au-dessus des têtes des militants syndicaux de base. Alors en quoi cette interrogation elle entre en résonance avec celle du colloque? Il me semble qu'un des aspects les plus marquants de ces transformations contemporaines du syndicalisme, c'est sans doute une perte assez notable de ses capacités critiques. On évoquait tout à l'heure, Sophie, l'absence de regard critique que pouvaient avoir souvent les organisations syndicales vis-à-vis des médias. On pourrait reproduire ça aussi, on le voit aussi dans la façon dont par exemple une organisation comme la CGT elle va avoir recours aux spécialistes des sondages et va pour l'essentiel penser sa relation aux salariés qui ne sont pas des militants, et y compris parfois même sa relation aux militants de l'organisation par le biais de professionnels de l'enquête d'opinion. Ça c'est une illustration parmi d'autres de la perte de ses capacités critiques. Et en gros, aujourd'hui, l'essentiel du mouvement syndical oscille entre une acceptation quasi acritique de l'ordre des choses, un certain légitimisme par rapport à l'ordre existant. On peut penser, par exemple, à la façon dont aujourd'hui certains représentants syndicaux ont pu intérioriser la rhétorique de la compétitivité économique, qui a abouti récemment à l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi, enfin la façon dont certaines organisations comme la CFDT en particulier reprend à son compte cette idée que un des enjeux des organisations syndicales, c'est de travailler à la compétitivité de l'économie, donc en acceptant le principe de cette guerre de tous contre tous. Ou alors, pour d'autres organisations, on a une critique des discours dominants qui est auto-limité. Je pense par exemple, peut-être vous en avez entendu parler, peut-être pas, c'est en soi aussi emblématique, de la campagne de la CGT sur le coût du capital, un peu en réponse au tapage justement sur le coût du travail. Donc campagne sur le coût du capital qui déconstruit effectivement le discours libéral, mais qui se refuse à composer une logique alternative qui sorte des frontières tenues pour légitimes du syndicalisme. En gros, le territoire de la critique syndicale s'est aujourd'hui replié sur le champ des relations professionnelles en s'auto-limitant aux thèmes et aux acteurs tenus pour légitimes dans ce champ. Les plus courageux font quelques incursions dans les domaines des politiques économiques, fiscales, voire sociétales, mais sans chercher à construire une cohérence d'ensemble. Quand le syndicalisme produit une critique politique, elle est essentiellement réactive, c'est essentiellement une prise de position contre le Front National, au nom de valeurs consensuelles de la République, y compris de la République sociale, mais ce n'est plus une critique politique projective en quelque sorte, alors que c'est ce que faisait il y a encore une trentaine d'années une majorité du mouvement syndical, quand il s'inscrivait dans une configuration d'action collective qu'on appelait à l'époque le mouvement ouvrier, et qui entretenait auprès de centaines de milliers de militants et de salariés, en premier lieu, la perspective du socialisme comme alternative au capitalisme, mais aussi une perspective ancrée dans les pratiques syndicales, je pense en particulier à des thématiques comme celle de l'autogestion, du contrôle ouvrier, etc. Alors l'explication courante de ce repli, de cette évolution, c'est ce qu'on appelle l'institutionnalisation des syndicats. Comme si l'encadrement juridique croissant de l'activité syndicale impliquait un nécessaire resserrement de l'horizon d'action des militants syndicalistes. Or, ce processus n'a rien de mécanique, et c'est précisément ce que permet un peu d'illustrer le cas de la formation syndicale. Ainsi, dans l'article sur lequel je m'appuie aujourd'hui, nous étudions les conditions et les implications du basculement d'une forme éducative à une autre, ce qu'on appelait le passage de l'éducation ouvrière à la formation syndicale, au sein de la CGT Force Ouvrière. Alors pourquoi la CGT Force Ouvrière? Vous allez me dire, c'est quand même pas la centrale syndicale qui est réputée la plus critique. Il se trouve juste à la fois parce que j'ai fait ma thèse là-dessus, donc c'est l'objet que je connais, c'est celui sur lequel j'ai le plus de familiarité empirique, mais aussi parce que justement quand on remonte un peu aux origines de Force Ouvrière, on se rend compte qu'au sein de cette organisation, on a une hétérogénéité assez forte, on a une présence de militants libertaires, syndicalistes révolutionnaires, et que le devenir légitime, qu'on pourrait qualifier de légitimiste de la Confédération comme en gros un pilier, y compris de l'ordre social et politique dans les années 70, quand d'autres organisations se radicalisent, d'autres organisations syndicales, ce devenir n'était pas nécessairement inscrit dans les gènes de cette organisation, et se rendre compte de ça, c'est aller voir aussi ce qui pouvait exister à l'origine de cette organisation. L'autre point qui légitime aussi le fait de s'appuyer sur FO, c'est que les évolutions qu'on retrouve dans cette organisation se retrouvent sous des formes spécifiques dans les autres organisations syndicales. Mais elle est peut-être d'autant plus facilement objectivable et descriptible dans le cas de FO qu'elle oppose directement deux institutions au sein de la Confédération. Le Centre d'éducation ouvrière, qui est l'institution qui à l'origine organise les pratiques d'éducation syndicale, et puis le Centre de formation des militants syndicalistes, le CFMS, qui va s'y substituer au milieu des années 50. Donc on a vraiment une espèce de passage de relais entre deux institutions qui symbolise tout un tas de transformations dans les pratiques éducatives et dans la philosophie qui est associée à ces pratiques éducatives. Alors, je vais faire simple dans ma présentation. Si ça vous intéresse, je vous inviterai à vous reporter à l'article, mais en gros dire en quelques grandes idées qu'est-ce que l'éducation ouvrière, qu'est-ce que la formation syndicale, pourquoi l'opposition entre ces deux modèles, ces deux formes éducatives, et puis quelques éléments d'explication sur les raisons et les conditions du basculement de l'une à l'autre. Alors, l'éducation ouvrière, c'est un registre éducatif qui s'inscrit dans les origines du mouvement ouvrier, enfin qui renvoie à la des bourses du travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire-là, mais qui est un type d'éducation syndicale qui est porteuse d'une forte charge politique, symbolique, et voilà, qu'on peut décrire à travers tout un tas de caractéristiques que je vais essayer de décliner maintenant, et qui sont à l'origine de la création de Force ouvrière. Ah oui, alors je ne l'ai peut-être pas dit, mais je partais du principe que c'est acquis, mais ça ne l'est pas nécessairement. Force ouvrière, c'est une confédération syndicale dont le vrai nom est CGT Force ouvrière, qui est créée en 1948 suite à la scission l'année précédente de la Confédération générale du travail, donc la CGT, qui à l'époque est hégémonique dans le monde du travail, qui en gros, la création de FO, ça marque en quelque sorte le début de la guerre froide dans l'histoire, la structuration du champ syndical et dans l'histoire politique française. Les militants qui sont à l'origine de la création de Force ouvrière, les plus connus sont ceux qui s'inscrivent dans la tradition réformiste de la CGT confédérée, donc ils sont souvent proches de la SFIO, le Parti Socialiste de l'époque. Mais comme je le disais tout à l'heure, on trouve aussi tout un tas d'autres équipes syndicales qui participent à la création de Force ouvrière, et en l'occurrence dans les 10-15 premières années de la Confédération, les militants syndicalistes révolutionnaires ou libertaires ont une présence assez notable dans la Confédération. Ils dirigent plusieurs unions départementales, ils dirigent des fédérations, ils sont présents, ils sont actifs au sein de la Confédération, et on les retrouve notamment à porter ce registre de l'éducation ouvrière. Donc le centre d'éducation ouvrière, créé en 1948 avec la naissance de Force ouvrière, il est un petit peu pensé dans la continuité du centre confédéral d'éducation ouvrière de la CGT, dont un des animateurs était le responsable auparavant. Et il se caractérise à travers tout un tas de points spécifiques. Alors, à quoi correspond l'éducation syndicale dans le modèle d'éducation ouvrière ? C'est d'abord une offre éducative, une offre culturelle hétérogène, qui passe par des activités et des supports divers. L'éducation des militants syndicaux, elle passe par des cours. On va apprendre l'espéranto, les mathématiques, l'histoire du mouvement syndical, les régimes politiques de je ne sais quel pays à l'autre bout du monde. Ça passe donc par des cours, voilà, des enseignements magistraux assez classiques, mais ça va passer aussi par l'organisation de cercles d'études et de cercles de lecture, où là on retrouve pour le coup des techniques d'apprentissage qui vont plus être proches de ce qu'on a coutume d'associer à l'éducation populaire, voilà, appropriation collective d'un ouvrage, échange autour d'un bouquin, etc. L'éducation ouvrière est considérée comme faisant légitimement partie de l'éducation ouvrière à l'époque tout ce qui relève des publications, la création d'une librairie syndicale et d'une revue, les cahiers Fernand Pelloutier, en référence aux fondateurs des Bourses du Travail, qui sont il y a aussi des activités, par exemple des visites de musées, des visites culturelles organisées en groupe, etc. Donc une offre éducative hétérogène. C'est un public qui n'est pas, le public de l'éducation ouvrière n'est pas délimité a priori. C'est-à-dire que les éducateurs syndicaux s'adressent à l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient ou non syndiqués, qu'ils soient ou non des responsables syndicaux. L'idée est que ceux qui veulent apprendre se réunissent pour apprendre. C'est un mode d'organisation qui est décentralisé et coopératif. C'est-à-dire que, en gros, le centre d'éducation ouvrière dont je parle, c'est une structure qui a vocation, et c'est très clair dans les statuts qu'il constitue, c'est une instance de coordination d'activités, mais les activités dépendent de la libre volonté de groupes de militants locaux qui décideraient de constituer des collèges du travail. Donc le CEO a un rôle de coordination d'activités multiples et diverses et n'a pas de rôle directif par rapport à leurs activités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme d'éducation, par exemple, qui serait commun à tous les collèges du travail. Il y a cette idée que chacun doit pouvoir définir souverainement des thèmes d'études. Autre aspect illustratif de ça, la revue Les cahiers Fernand Pelloutier est présentée comme une tribune libre de l'éducation ouvrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne éditoriale. C'est l'idée d'avoir simplement une revue à prétention intellectuelle qui permette la controverse dans l'organisation sur des thèmes aussi bien techniques que politiques d'orientation syndicale. Le discours qui accompagne cette conception de l'éducation ouvrière, c'est un discours qui valorise donc la curiosité intellectuelle. Il n'y a pas de frontière a priori à l'éducation syndicale, au sens de l'éducation ouvrière, qui valorise la controverse, c'est ces histoires de tribunes libres, qui valorise la réflexivité. Et on a en arrière-fond en fait une conception de l'éducation qui est assimilée à la culture comme un temps de la culture qui est un temps désaliéné en fait. penser en opposition au temps du travail salarié aliénant. Mais dans le même temps, on a un discours qui valorise aussi l'unité de la théorie et de la pratique. C'est-à-dire que ce temps de l'éducation, s'il existe à travers des scènes spécifiques, des scènes intellectuelles spécifiques comme les revues, comme les cercles d'études, etc., c'est pas un temps qui est coupé de l'activité syndicale. Il y a une espèce de compénétration entre, d'interpénétration entre les scènes intellectuelles et les scènes militantes dans l'organisation syndicale. L'idée est que l'activité syndicale puisse être elle aussi pensée comme éducative. Il n'y a pas de déconnexion entre les scènes militantes et les scènes éducatives. Les différents moments de l'activité syndicale sont à la fois l'un et l'autre, car il doit s'agir, le syndicalisme doit être une pratique réflexive. Donc on a en fait une espèce de constellation de scènes d'activité intellectuelle qui, en quelque sorte, constituent, parce qu'elles ne sont pas subordonnées aux instances régulières de l'organisation syndicale, constituent un réseau transversal au circuit de pouvoir officiel de la Confédération. Vous avez les syndicats avec leurs bureaux, leurs responsables, qui vont siéger dans des conseils, des commissions exécutives interprofessionnelles, une fédération qui se réunissent dans un comité confédéral national. Ça, c'est les circuits de pouvoir légitimes. Et puis, vous avez ces scènes transversales qui vivent un peu de leur vie propre, qui sont ces scènes intellectuelles. Autre illustration aussi du fait que l'éducation ouvrière n'est pas pensée en rupture avec le reste de l'activité syndicale et que l'activité intellectuelle n'est pas pensée en rupture avec la pratique syndicale, la création des jeunesses syndicalistes force ouvrière en 1953 légitimée sur le mode justement de l'éducation ouvrière. Donc c'est cette idée de l'apprentissage par la pratique, et les jeunesses syndicalistes sont, dans la même optique que les collèges du travail, des structures autonomes au niveau local que les jeunes syndicalistes doivent pouvoir constituer organiser et diriger souverainement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas subordonnés à une instance nationale, confédérale ou autre. Voilà. Donc, voilà, j'ai essayé de souligner un peu ces modes d'organisation, parce que l'idée, vous comprendrez, c'est que les philosophies de l'éducation sont très étroitement liées à des formes d'organisation des modes de production du savoir et de partage, de diffusion du savoir. Et ça, on le voit d'autant mieux quand on oppose justement l'éducation ouvrière à ce qui va s'appeler la formation syndicale, et dont la naissance du CFMS en 1954 donne en quelque sorte un sceau officiel. Alors, la formation syndicale, elle existe dès la naissance de force ouvrière. Il n'y a pas une espèce, il n'y a pas simplement substitution de l'un à l'autre, mais il y a une espèce de développement en parallèle et puis un mode éducatif qui va prendre le dessus sur l'autre. À la naissance de force ouvrière, on parle de formation syndicale accélérée, mais ça va se formaliser, comme je l'ai dit, donc, et s'imposer comme la seule éducation syndicale légitime au tournant des années 50 via le CFMS. Et s'il fallait résumer en une phrase cette idée de la formation syndicale, c'est cette idée qu'on passe d'une logique de l'éducation par le syndicalisme, d'une éducation par la pratique syndicale, à une éducation au syndicalisme, un enseignement de la pratique syndicale. Et donc c'est un renversement de la logique éducative, en fait, qui est portée par cette forme de la formation syndicale. On va se retrouver face à une offre éducative qui va être spécialisée, étroitement spécialisée, c'est-à-dire que sont enseignés dans le cadre de ces activités de formation syndicale les savoirs jugés utiles à l'activité syndicale, jugés a priori utiles à cette activité, essentiellement des savoirs d'ordre juridique, économique et gestionnaire. Juridique, connaissance du droit du travail, économique, connaissance en matière de comptabilité nationale, etc. Et gestionnaire, administration de l'organisation syndicale et autres. Cette offre éducative, elle est articulée à une forme pédagogique spécifique qui va être celle du stage. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est un apprentissage qui se fait en classe, dans un espace fermé qui est marqué par la relation entre un éducateur légitime et des apprenants, des stagiaires. C'est-à-dire que toute cette diversité de supports qui était valorisée dans le modèle de l'éducation ouvrière est réduite à la forme du stage dans le modèle de la formation syndicale. Dans le même esprit, le public est délimité a priori, c'est-à-dire que cet enseignement, il est destiné aux cadres syndicaux. Hein, l'idée, c'est apprendre à bien faire le syndicalisme, apprendre à être un bon syndicaliste, apprendre le métier de syndicaliste. Et donc, qui dit délimitation du public, dit nécessité de l'existence d'une autorité pour sélectionner ce public. Donc la logique présuppose qu'une autorité existe qui dise tel militant a le droit d'assister au stage syndical. Et ben, ce qui découle de tout ça, c'est évidemment un mode d'organisation qui va être du coup centralisé et directif. Le CFMS n'est pas une instance de coordination comme l'est le CEO, ça devient une instance qui élabore des programmes d'enseignement. Alors évidemment pas tout seul en lien avec les responsables nationaux des fédérations, mais ça reste entre les mains de responsables nationaux, hein, ça n'est plus du ressort d'entités syndicales souveraines au plan local. Le CFMS pilote un cursus qui va progressivement se différencier on parle de scolarisation en quelque sorte, hein, la reprise d'un modèle scolaire dans la formation avec des niveaux, un niveau élémentaire qui donne droit à passer à un niveau supérieur de formation syndicale, etc. Et donc qui renforce cette logique centralisée et directive. Et évidemment, le discours qui va de pair avec cela, c'est un discours qui valorise l'efficacité et l'objectivité de la technique mise au service de l'organisation syndicale. De la sorte, le savoir se retrouve subordonné à la politique syndicale. Il n'y a plus de rapport dialectique entre l'un et l'autre, comme l'illustrent en particulier deux phénomènes. Le premier phénomène, qui s'opère entre les années 50 et les années 60 au sein de l'organisation, c'est la disparition des espaces de libre discussion et d'expérimentation politique qui pouvaient exister et qui donnaient une réalité sensible à ce modèle de l'éducation ouvrière. Par exemple, les cahiers Fernand Peloutier, dans un premier temps, changent de fonction. Ils ne sont plus réservés qu'à à des articles d'ordre qualifiés de techniques. C'est-à-dire que l'idée de la tribune libre et de la controverse est évacuée dans le contenu éditorial des cahiers, et puis sont ensuite tout simplement supprimés. Autre exemple, les tribunes libres qui étaient monnaie courante dans la presse confédérale, c'est-à-dire que les militants qui étaient en désaccord avec l'orientation confédérale pouvaient s'exprimer librement dans la presse syndicale, les tribunes libres sont supprimées en 63, je crois. Mais en gros, voilà, cette idée-là de la controverse disparaît aussi des publications syndicales. On a en fait une espèce de transformation de la logique de la presse syndicale qui, à l'origine, était plutôt une espèce de forum interne permettant aux militants de confronter leurs opinions, et qui se transforme en forum externe qui vise à extérioriser les positions de l'organisation, et c'est symbolisé par la création de FO Magazine, qui participe de cette entreprise de modernisation de la presse syndicale, donc qui est tournée vers un auditoire extérieur et en quelque sorte impersonnel, l'opinion publique, et qui n'est plus tournée vers les arènes militantes internes. Et puis, autre exemple, je parlais des jeunesses syndicalistes tout à l'heure, il se trouve que les jeunes syndicalistes, ils étaient un petit peu trop remuants pendant la guerre d'Algérie, et les jeunesses syndicalistes sont réformés, ça devient un service confédéral qui est placé sous la direction d'un membre du bureau confédéral, et donc l'autonomie politique de cette structure disparaît au début des années 60. L'autre aspect qui témoigne de cette subordination du savoir à la politique syndicale, c'est l'émergence d'un personnel éducatif subordonné. C'est-à-dire que on voit se développer comme professionnel de la formation syndicale un petit corps de militants et de techniciens dont la légitimité va découler de leur désignation par l'organisation, quand leurs prédécesseurs étaient surtout des enseignants et des intellectuels qui du coup disposaient d'une légitimité un petit peu autonome, hein, qui découlait de leur savoir et qui découlait de leur engagement plus sur un mode vocationnel dans la pratique de l'éducation ouvrière, alors que là il s'agit de militants qui vont être mandatés par l'organisation pour prendre en charge le développement de la formation syndicale. Donc voilà, quand je parlais tout à l'heure du modèle de l'éducation ouvrière avec l'existence de circuits transversaux au circuit de pouvoir officiel de l'organisation, là ces circuits transversaux disparaissent et le modèle de l'éducation, de la formation syndicale va s'ajuster au circuit de pouvoir officiel de l'organisation syndicale. C'est ce qui nous a amené à parler de la naissance d'un dispositif d'administration du sens syndical. Ce sens syndical étant supposé stable, objectif et prédéfini. Voilà, donc j'ai présenté ces deux formes éducatives pour bien souligner l'antagonisme qui peut exister entre ces deux philosophies éducatives en fait, qui les sous-tendent, hein. D'un côté l'idée de l'éducation pensée comme culture alors qu'elle est à l'inverse pensée comme science, l'idée de gratuité contre l'idée d'utilité, l'idée de réflexivité contre l'idée d'instrumentalité. Il y a un affrontement politique feutré et réel tout au long de la fin des années 40 au milieu des années 50 qui va aboutir au triomphe incontestable de la deuxième forme sur la première au tournant donc des années 50. Alors, comment s'opère ce renversement? Je vais être plus rapide parce que j'arrive au bout de mon temps. Alors, il faudrait regarder ce qui, à la fois ce qui a entravé le plein épanouissement de la première forme éducative et ce qui a favorisé le développement de la seconde. Je me limiterai à trois éléments, même s'il y a d'autres éléments qu'il faudrait prendre en compte. Premier aspect, c'est les transformations de la représentation syndicale qui vont renforcer l'injonction à cette fameuse formation syndicale accélérée, cet apprentissage du métier syndical. En gros, on a un champ syndical qui devient de plus en plus concurrentiel, notamment par la création de forces ouvrières, donc l'éclatement du champ syndical, et l'émergence de nouveaux rôles syndicaux plus techniques, à travers l'institution des comités d'entreprise, des institutions de la sécurité sociale, etc., qui vont conforter ce registre donc, du recours à la science et aux techniques comme mode principal de l'éducation syndicale. Je l'ai évoqué un petit peu, mais on a aussi des transformations du personnel qui va prendre en charge l'éducation syndicale. Ces enseignants qui étaient, ces intellectuels, certains autodidactes hein, qui étaient investis dans la pratique de l'éducation ouvrière sont marginalisés à la fois parce qu'ils sont politiquement écartés comme des opposants, mais aussi parce que le personnel enseignant dans le syndicalisme ouvrier devient plus rare. En l'occurrence, ce qui se passe dans les années 50, suite à l'éclatement de la CGT, c'est aussi le passage à l'autonomie de la FEN, Fédération de l'éducation nationale. Et ça, ça a des conséquences importantes en termes de coupure entre les intellectuels de profession dont on parlait tout à l'heure et les militants ouvriers, ouvriers au sens large, hein, employés, ouvriers, etc., qui peuplent les confédérations syndicales dites à l'époque ouvrière. Et puis surtout, l'aspect décisif, évidemment, c'est un certain nombre de ressources, en premier lieu financières, mais aussi symboliques, qui vont être apportées par d'autres institutions et qui vont permettre le développement de la formation syndicale au détriment de l'éducation ouvrière. L'aspect principal, c'est vraiment l'argent. Hein, c'est très concrètement, les pratiques d'éducation ouvrière, elles reposaient sur la libre initiative et les moyens que les groupes locaux pouvaient réunir. La formation syndicale, elle est abondamment financée, dans un premier temps par des fonds qui sont fournis dans le cadre du plan Marshall par les États-Unis pour développer la productivité du pays. Ça va être ensuite relayé par un financement étatique à travers l'adoption des mal nommées lois sur le congé d'éducation ouvrière de 57 et 59. C'est aussi pendant toute la période qui va conduire à la scission de la CGT et donc au développement de Force ouvrière, le soutien du syndicalisme entre guillemets libre qui favorise Force ouvrière et met tous ses moyens au service de cette organisation pour lui permettre d'occuper un minimum d'espace face à la CGT qui reste encore hégémonique. C'est aussi par exemple en parallèle dans les années 50, issue d'autres logiques, la création des instituts du travail qui vont conforter donc, cette logique d'une éducation syndicale pensée sur le mode de l'accès au savoir scientifique et au savoir spécialisé. Bon, alors pour conclure, en quoi cette histoire qui peut paraître assez lointaine, elle peut intéresser ce colloque? Alors il me semble que souvent, en tout cas pour ce qui concerne les études sur le syndicalisme, la charge d'un critique d'un dispositif, elle est souvent uniquement rapportée au contenu qu'il véhicule. Alors certes, cette dimension est essentielle, et je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas voulu mettre l'accent là-dessus, mais le passage de l'éducation ouvrière à la formation syndicale, ça renvoie aussi, dans le cas de Force ouvrière, au triomphe d'un certain type de savoir, notamment de savoir économique, validé par l'État, qui véhicule l'idée que les classes sociales ont plus à gagner à collaborer qu'à s'affronter. Et sur le plan des contenus, il y a une nette différence, à la fois dans les années 50, mais tout au long de la période jusqu'à aujourd'hui encore, entre la CGT, qui conserve un référentiel marxiste dans ses pratiques éducatives, et Force ouvrière, même si, du point de vue de FO, la charge critique du référentiel keynésien, en gros, qui structure l'éducation syndicale à FO, s'est accrue depuis le tournant néolibéral des années 80, ce qui permet aussi d'éclairer les changements un peu de positionnement dans le champ syndical de FO par rapport à d'autres. Mais ici, j'ai voulu insister davantage sur l'évolution des formes d'organisation et de division du travail intellectuel et syndical, car sur ce plan, ce que nos recherches, donc pas seulement sur FO, mais sur l'éducation syndicale en général, ont montré, c'est une convergence assez notable de toutes les confédérations syndicales vers ce modèle de la formation syndicale versus éducation ouvrière. Or, si on fait l'hypothèse que différentes façons d'organiser les pratiques engendrent différentes formes de conscience, on peut se demander si le repli du territoire de la critique syndicale n'a pas aussi à voir avec ces transformations organisationnelles qui nourrissent un rapport instrumental au savoir. Et du reste, le renouveau de la critique syndicale, qui a été très, très net dans les années 68 et qui a été en particulier porté par la CFDT à l'époque, il a été très fortement lié au réinvestissement par ces militants syndicaux d'un rapport stratégique et réflexif au savoir, en se réappropriant des techniques de l'éducation populaire, en retournant voir du côté de l'enquête ouvrière, en nouant de nouveaux partenariats avec des intellectuels spécifiques, notamment des experts, qui ne sont pas encore à l'époque justement des experts, mais des chercheurs en ergonomie ou en économie, etc., qui vont nourrir toutes les luttes autogestionnaires, tout l'argumentaire des militants syndicaux autour de l'autogestion. Tout ça pour finir sur cette idée qu'un des enjeux contemporains, ce serait peut-être ainsi de recréer de tels espaces de critique qui ne soient pas simplement de la critique dénonciation, au sens de la critique appuyée sur des critères de jugement explicites, mais aussi de la critique réflexivité, critique sur les catégories employées par les militants basées sur la suspension des critères de jugement, et aussi une critique stratégique de médiation entre la théorie et l'action politique. Donc recréer de tels espaces de réflexivité stratégique qui soient ancrés dans la pratique syndicale de terrain, mais transversaux aux organisations. Je vous remercie.
Alors moi, je ne vais pas vous présenter une communication savante, entre guillemets, parce que je vais vous présenter en fait une expérience, des expériences d'université populaire auxquelles j'ai participé, soit en tant que j'ai organisé ces universités populaires, soit parce que j'ai assisté à certaines des séances et que j'ai essayé de regarder comment ça fonctionnait. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à mon sens, ce que je vais vous raconter s'articule à ce qui a été évoqué dans la table ronde précédente sur les intellectuels collectifs et s'oppose un peu à la vision très négative de Pierre Zarka, qui considère qu'il y a un essoufflement de l'articulation entre le désir de se donner nos propres lumières par des savoirs et la possibilité de faire de la politique. Je pense que cet essoufflement, en fait, il est conjoint et qu'il est une manière de dire que quand il y a dégoût pour les savoirs, c'est aussi des périodes de dégoût pour la politique. Mais que s'il y a réémergence de goût pour les savoirs, alors en général, c'est activé par un désir aussi de pouvoir agir politiquement. Il se trouve que ces universités populaires dont vous parlez, il s'agit de trois universités populaires. La première, c'est l'Université populaire de Lyon, qui a été créée en 2003. Et je vais vous expliquer comment. La seconde, c'est l'Université populaire du 18e arrondissement, qui s'appelle également « Nous avons encore besoin des humanités », et qui a été créée en 2009. Et puis la dernière, c'est un lieu qui s'appelle, disséminé, qui s'appelle « Les maîtres ignorants », du titre du livre de Jacques Rancière, et qui en fait a été créé par un certain nombre de personnes qui étaient partie prenante d'une manière très active des indignés français et qui ont ressenti la nécessité de se donner leur propre lumière pour pouvoir continuer à agir autrement que simplement sur les places et dans les systèmes d'assemblée qu'ils avaient créés. Trois configurations, je vais commencer par la première. Quand on l'a créé en 2003, évidemment on n'est pas loin de 2002. Et donc on est dans l'après-coup du Front National au deuxième tour des élections présidentielles. Et ça crée quand même une certaine anxiété politique et sociale dans des milieux qui sont des milieux politisés, sans être à proprement parler, comme disait tout à l'heure Henri Mahler, des consommateurs d'indignation ou de protestation, mais qui sont dans une période où il y a quand même une offre qui est complexe, soit archaïque, soit insatisfaisante, soit finalement vite enterrée. On est quand même aussi dans l'après-coup des mouvements sociaux de 1991, 1993, 1995, anti-CNP, ça s'appelait, je crois. Ensuite, 93, tout ce qui concernait les étrangers. Ensuite, 95, le grand mouvement social enterré dans une certaine mesure par les accords de la CFDT, de NOTA avec le gouvernement. Ensuite, le mouvement de chômeurs. Enfin, on a eu comme ça un mouvement social extrêmement dynamique avec, effectivement, à chaque occasion, des sortes d'universités populaires en situation. Je me souviens en particulier rue du Dragon, des choses s'étaient auto-instituées en 1995. Et donc il y a quelque chose là qui fait surface à nouveau avec le modèle, qui est effectivement un modèle, de Michel Onfray à Caen. Et ça, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Et donc il y a un certain nombre de gens qui viennent voir Philippe Corcuff, qui à ce moment-là est assez visible sur la scène politique et intellectuelle lyonnaise, et qui donc est sollicité par en fait trois profs de français et un cordonnier. C'est un hasard, le cordonnier, c'est la grande figure de Jacques Ancien, mais c'est un hasard. Bon, le cordonnier est le compagnon d'une des profs de lettres qui vient solliciter Philippe. Philippe est pas contre, il trouve ça plutôt intéressant, mais il se voit pas faire ça tout seul, et il vient me solliciter en retour. J'habite à ce moment-là, et on organise une petite réunion, et on décide, oui, pourquoi pas, on va se lancer avec nos petites forces, et on prend la décision que cette université populaire sera évidemment gratuite, et qu'elle, finalement, laissera libre décision à chacun des intervenants de faire le cours qu'il souhaite. La question qu'on pose aux gens qui sont venus nous chercher, c'est pourquoi une université populaire ? Pourquoi, après tout, ne pas aller à l'université en auditeur libre ? Et donc, ce qui se joue à ce moment-là, c'est, même pour les professeurs de français, qui sont profs de lycée, l'affirmation que l'université est un lieu qui reste un lieu inquiétant, répulsif, pas accueillant, en un terme inhospitalier, et que, en particulier pour un public plus populaire et éventuellement plus populaire même qu'eux-mêmes, le désir n'y est pas, ils ont le sentiment qu'il n'y a pas dans ces lieux-là un savoir qui leur est adressé. Et donc la question du désir d'université populaire, il est double, il est trouver des interlocuteurs engagés qui sont à la fois porteurs de savoir et porteurs d'une position dans le monde engagée, engagée du côté gauche voire radical, et la possibilité de construire une adresse spécifique dans ces lieux. Du coup, on est vraiment les mains dans le cambouis de la création de la chose, on cherche des lieux, et au bout du compte, on va avoir accès à un lieu plutôt intéressant, qui est l'amphithéâtre d'un lycée technique sur la Croix-Rousse. Et donc on va faire ces cours, et moi je me souviens, j'ai déménagé Lyon peu de temps après, mais j'ai fait cours deux ans en fait dans cette université populaire, et le cours que j'ai fait, c'était le livre que je préparais qui s'appelle La longue patience du peuple, et j'étais très ravie de pouvoir présenter dans ce lieu finalement les chapitres au fur et à mesure, d'en discuter avec les gens, sachant que le format choisi pour les cours, c'était une heure de cours, une heure de débat. Et en fait, ce qui s'installe à ce moment-là, pour chacun des enseignants qui sont partie prenante, on n'est pas très nombreux, on doit être au démarrage, je dirais 5-6 enseignants, pas plus, c'est en fait un public qui se fidélise autour des objets de cours et qui, dans le débat, fait le lien entre le contenu du cours, qui est un contenu tout à fait académique, de chercheurs, de professeurs, et l'actualité, et ce qui se passe dans le monde tel qu'il va et tel qu'il est. On est très près de la question qui se profile du débat sur l'Europe et sur le référendum, et donc au moment où ce débat a lieu, les cours d'université populaire sont un lieu de débat et de discussion sur ces enjeux-là. Et donc il y a quelque chose qui, dans le va-et-vient entre les enjeux politiques et les enjeux de savoir, s'institue par la parole publique et par le type de personnes qui fréquentent ces cours. Alors on appelle ça université populaire, ce n'est pas la classe ouvrière qui fréquente les universités populaires, que ce soit celle de Lyon, que ce soit celle de l'université populaire du 18e ou les maîtres ignorants aujourd'hui à Paris. C'est plutôt des gens déjà un peu formés, souvent qui ont un sentiment de non-sens, qui ont fait de la politique dans leur jeune temps et qui ont arrêté, ou qui ont fait d'une manière très épisodique et qui ont envie de ressaisir quelque chose, mais qui ne se reconnaissent pas dans les appareils politiques et syndicaux tels qu'ils existent. Et donc il y avait également dans mon souvenir à Lyon énormément ce qu'on appelle les intermédiaires culturels et sociaux. Il y avait beaucoup de personnel qui travaillait dans ce qu'on appelle la politique sociale. Alors, beaucoup d'éducateurs, d'assistantes sociales, enfin, de gens qui sont un peu sur le front social où les enjeux de la dégradation politique et sociale sont quotidiens dans le contact qu'ils peuvent avoir, eux, avec les mondes défavorisés. Donc on avait ce type de public. Moi, je ne suis pas retournée depuis maintenant un bon moment, parce que j'ai fait les choses pendant 3 ans. Et les formes se sont multipliées. Les formes se sont multipliées. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois ces cours dans cet amphi du lycée de la Croix-Rousse, et puis des sortes de cafés où, dans un lieu qui est devenu un lieu de jazz, la personne qui était venue nous voir est quelqu'un qui est en fait une sorte d'entrepreneur culturel. Et depuis qu'elle avait pris sa retraite de l'éducation nationale, elle avait lancé d'autres projets, et donc il y a eu toutes sortes de nœuds entre différents lieux possibles dans la ville, y compris certains cinémas, le cinéma Utopia, donc ce lieu de musique de jazz. Moi, je me souviens avoir fait cours sur cinéma et révolution et sur V pour Vendetta, c'était assez amusant. Donc il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant à souligner, c'est qu'il y a une articulation qui s'est faite un peu spontanément aussi, même si je ne crois pas non plus au spontanisme. Il y a des entrepreneurs derrière et des gens qui activent des réseaux et des capacités à faire les liens. Ils ne se font pas tout seuls, mais c'est certaines personnes qui font les liens. Donc une articulation assez forte avec des pratiques qui sont des pratiques dites culturelles classiques. Donc ça s'est croisé, et ce qui me semble intéressant, c'est que ça permet effectivement de croiser des publics, de croiser des préoccupations, et de faire de la politique autrement. Donc ça, c'est première séquence à Lyon. Dans cette séquence, je vous montrerai toute une série d'images à la fin, parce que ça me paraît plus probant de vous montrer à la fin. On a également produit des cartes postales politiques, où on a fait des jeux littéraires, c'est-à-dire où on a organisé des petites séances où on avait des images d'un côté, des énoncés de l'autre, et où il s'agissait de les relier dans des cartes postales qui avaient une image d'un côté et un énoncé de l'autre, qui étaient à la fois des enjeux poétiques, culturels, politiques, et avec l'idée qu'il fallait trouver des supports capillaires autres pour pouvoir toucher des publics autres. Et donc ces cartes postales, que je vous présenterai tout à l'heure, ont servi aussi à être partie prenante du festival de théâtre dans la rue, qui était organisé par le CCO, qui est un lieu assez intéressant à Villeurbanne. Et donc finalement, l'université populaire, c'est pas l'université populaire en soi, c'est un lieu qui permet d'avoir une certaine capillarité, et c'est cette logique de capillarité, de segmentarité, comme vous voulez, en tout cas une logique qui n'est pas à proprement parler centralisatrice, mais plutôt expansive, comme ça, qui s'est auto-instituée. Voilà. Et donc il y a bien quelque chose d'une auto-institution par la pratique de la manière de toucher des publics variés, et de toujours tenter de mettre à l'articulation des savoirs, des pratiques sensibles, cinéma, littérature, poésie, etc. Et puis les questions politiques d'actualité. Voilà. Donc ça, c'était l'expérience lyonnaise, en tout cas telle que moi j'ai pu la voir. L'expérience du 18e arrondissement, j'étais un peu nostalgique, j'avais trouvé ça vraiment très intéressant, ce qui s'était passé à Lyon pour moi, et je ne pouvais pas décemment continuer à faire des trajets pour aller faire l'université populaire à Lyon, même si on avait obtenu un petit budget de la part de la mairie de Lyon pour effectivement défrayer des individus. Je me dis que c'est absurde de dépenser le budget pour me faire venir moi si je n'habite plus à Lyon, je ne suis plus l'université populaire de Lyon. Bon. Donc en 2007, donc au moment de la campagne présidentielle, un certain nombre de gens se sont retrouvés à vouloir faire barrage à Sarkozy de différentes manières. On a échoué, et à la fin de ce processus où on a échoué, un certain nombre d'entre nous ont décidé de créer une université populaire, que ça nous paraissait finalement plus pertinent dans le quartier qui était le nôtre, 18e arrondissement, que de chercher à faire de la politique dans des conditions qui ne nous paraissaient pas satisfaisantes. Donc effectivement, on décide de créer cette université populaire, et là, dans une certaine mesure, sans qu'il y ait de demande qui se soit manifestée. Voilà. Sauf la nôtre, et avec la conviction que malgré tout, il y a quelque chose qui nous paraît nécessaire, dans un contexte où dans les différents lieux politiques qu'on a pu fréquenter, en fait, le savoir et l'intellectualité se portent plutôt très mal. Et qu'il y a quelque chose qui est rejeté, et que même dans les lieux qui sont supposés être les lieux d'intellectualité de ces structures politiques, quelles qu'elles soient, c'est très peu intellectuel, il y a très peu de désir de débattre. Et donc il nous semblait que la démocratie telle qu'on pouvait l'entendre était en berne, et que au moins de tenter de diffuser des savoirs, ça nous permettrait d'avoir le sentiment de ne pas être simplement témoin d'une époque qui nous paraissait particulièrement difficile. Il se trouve que dans la période, entre la période où on prend la décision de créer cette université populaire et le moment où on la crée, il y a toute une agitation des universités autour de la loi LRU. C'est le moment du mouvement social important des enseignants du supérieur, qui n'avaient pas fait grève depuis très très longtemps, et donc qui mène une grève un peu jusqu'au boutiste et pas très stratégique, et qui échoue, mais qui permet quand même de mettre en scène une question centrale qui est qu'est-ce que c'est dans une démocratie la gratuité des savoirs et la diffusion au plus grand nombre des savoirs. Je pense que vous vous souvenez tous du débat autour de la Guichetière, est-ce qu'elle avait été censée lire la princesse de Clèves, le fait qu'on ait lu partout la princesse de Clèves, pas partout, mais qu'on ait lu différents endroits la princesse de Clèves, et donc il y a eu comme ça toutes sortes de choses autour de la validité ou la non-validité, la légitimité ou la non-légitimité, de vouloir que ce soit au sein du service public, que ce soit l'enseignement primaire, secondaire et les universités, ou dans des espaces comme les universités populaires, diffuser les savoirs au plus haut niveau à quiconque, est-ce que c'était toujours un projet pertinent ou pas, et pourquoi. Dans ce contexte-là, on décide, quand on ouvre l'université populaire, d'en faire vraiment un cheval de bataille, on tient un discours contre la position de Sarkozy, on explique que dans les sociétés démocratiques, il y a un certain nombre d'objets qui sont sacrés, au sens anthropologique du terme, qu'il y a au moins, depuis les travaux de Mauss, deux conceptions de l'échange dans les sociétés, l'échange guimalique et l'échange âpre et commercial, et l'échange koulak et l'échange festif et sacré, qui permet d'échanger les objets sacrés et de fonder la réciprocité humaine et donc l'égalité au cœur des sociétés, la reconnaissance d'humanité, et que dans les sociétés dites démocratiques, ce sont les arts et les savoirs qui occupent cette place. Et que donc, si le gouvernement ne souhaite plus donner cette place aux arts et aux savoirs, alors il revient à la société dite civile de prendre le relais militant, et qu'en tant que tel, on considère que diffuser ses savoirs dans un lieu qui en fait est un lieu d'atelier de théâtre, c'est déjà faire œuvre politique dans un contexte difficile. Donc cette université populaire, on la pense immédiatement à l'articulation des arts et des savoirs, sans séparer les choses, tout en étant dans la conviction que les choses doivent s'élaborer sur un certain temps. C'est-à-dire qu'on a des idées un peu arrêtées, il s'agit de deux profs de philo de classe prépa et moi, directrice de recherche en histoire, et on décide que ce sera les humanités et que ce ne sera pas les disciplines d'expertise. Donc on ne veut pas de disciplines d'expertise, et ça ne veut pas dire que la sociologie est que dans l'expertise, mais si sociologie il y aurait, ce serait dans une position logique d'humanité, un peu comme l'anthropologie. Bon, on est dans quelque chose où ce qu'on souhaite, c'est permettre aux individus de se ressaisir de leur subjectivité, de manière à être libres pour pouvoir agir et retrouver les forces et le courage d'agir, dans une certaine mesure, grâce à cette reconquête de subjectivité. On pense que pour que cette reconquête ait lieu, il ne s'agit pas de consommer des conférences, et donc on ne souhaite pas que les choses soient sous forme de conférences, mais à nouveau sous forme de cours, comme ça avait eu lieu dans l'expérience lyonnaise, qui ensuite s'est un peu dégradée en conférences ou en groupe de séances très courtes, parce qu'il y avait un trop grand nombre de personnes qui voulaient faire cours. Donc l'Université populaire du 18e, on n'est pas nombreux à faire cours, et on fait des cycles de 6 heures, non, je vous dis des bêtises, des cycles de 6 séances de 2 heures, toujours une heure de cours, une heure de débat, avec le même processus, c'est-à-dire qu'on fait cours, et dans le débat, eh bien, c'est l'actualité politique qui vient en résonance avec le cours, que le cours ait lieu sur la Révolution française, sur le corps, sur la place de l'étranger, puisque c'était les 3 premiers cycles qu'on avait fait la première année de cours. Et en plus de ces cycle de cours, on a inventé une formule qui nous plaît bien, qui s'appelle le mix de week-end. Ça veut dire qu'à la fin du cycle, on a un week-end qui est consacré à une série de pratiques artistiques, à consommer ou à agir, souvent à consommer quand même, il faut bien le reconnaître. On commence par une table ronde, on a un artiste invité, soit un plasticien, soit une femme de théâtre, enfin, ou soit quelqu'un qui fait du cinéma, on fait des projections, on a des petites formes qui ont été présentées, des petites formes théâtrales qui ont été présentées, des expositions, et on montre les liens en invitant effectivement les gens à discuter avec les artistes. Donc il y a la séquence de table ronde, et puis de vernissage, et puis ensuite les gens peuvent circuler, et les artistes sont là, et on discute, et on fait un certain nombre de choses. C'est dans ce contexte-là qu'on a articulé un cours qui s'appelait Souveraineté, domination, et je ne sais plus le troisième terme, enfin, en gros, souveraineté, domination, peut-être doléance, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, dans ce contexte de cours de la deuxième année, il me semble, que c'était la deuxième année, on a lancé un appel à doléance. C'est-à-dire, on s'est dit, bon, une des formes populaires depuis l'histoire de la Révolution française pour une prise de parole publique politique, c'est la doléance. Essayons de nous ressaisir de ça. Et on a fait tout un travail dans l'université populaire, mais aussi à l'extérieur de l'université populaire, pour créer un site qui s'appelait le tambour des doléances. On a récolté comme ça une centaine de doléances. Cette centaine de doléances, ensuite, on a eu la volonté de les mettre à disposition du public dans l'université populaire pour créer des ateliers doléances dans l'université populaire. Ce qui fait qu'un de nos mix de week-end a tourné autour de ces doléances avec les graphistes, qui sont nos graphistes pour faire les affiches de l'université populaire, qui, avec les doléances, ont créé une exposition que je vous montrerai tout à l'heure, et qui permettait de regarder ces doléances autrement et en écho avec l'actualité politique à nouveau. Dans ce lieu d'exposition, qui est le lieu où on fait cours, hein, qui est aussi le lieu d'atelier de théâtre de quartier, de gens qui viennent faire du théâtre, on a donc fait un atelier et où les gens ont dit leurs doléances et on les a pris en note et on a discuté de tout ce que tout ça voulait dire. Et donc on était au cœur de la question effectivement de l'actualité politique, qu'est-ce qui ne va pas, quel est ce régime de cruauté dans lequel on est plongé, et est-ce qu'il y a la possibilité d'inventer autour de ces doléances des formes. Et cette chose-là a rebondi sur justement des questions de formes sensibles. La première chose qu'on a voulu faire, c'est publier les doléances sous forme d'un petit livre. Et là on a été aidé par quelqu'un qui était là tout à l'heure, qui est Nicolas Vieillescas. On a fait une coédition entre les Prairies Ordinaires et l'Université Populaire, qui avait créé une toute petite maison d'édition, une maison d'édition de production pour les choses qu'on fait, qui s'appelle Excel. Et on a donc produit ce livre, et il a été mis à disposition du public. Et à partir de ce livre, ensuite, on s'est dit, bon, ça suffit pas, parce que l'exposition graphique, elle était formidable, on était très contents, mais peu de gens l'ont vu. Et donc on va essayer d'utiliser des formes qui circulent davantage. Et donc on a décidé de faire des doléances filmées, et on a fait affaire avec Mediapart pour que ça puisse être présent sur le site de Mediapart. Donc effectivement ces doléances filmées ont été sur le site de Mediapart et elles ont été produites par toutes sortes de gens, des étudiants d'école d'art, en particulier d'école d'Aix-en-Provence, à cause de liens qu'on peut avoir les uns et les autres de différentes manières, par des individus qu'on ne connaissait pas et qui ont répondu à la proposition, d'autres qu'on connaissait qui ont répondu à la proposition, des réseaux de jeunes cinéastes qu'on avait sollicités. Enfin voilà, donc on a un gros bloc de doléances filmées que vous pouvez aller regarder en mettant Mediapart doléances et en allant sur la dernière partie UTF1, parce que sinon il y a eu un bug informatique et donc on n'y a accès vraiment que dans le suite F1, et là on a tout, alors que si vous allez sur la première chose, c'est réservé aux abonnés, mais normalement ce n'est pas réservé aux abonnés. Bon, voilà. Et ensuite on a présenté ces choses là ailleurs que dans l'université populaire, c'est l'université populaire qui était partie prenante de cette affaire, mais ça a circulé, en particulier comme il y avait pas mal de gens d'Aix qui avaient participé, on a fait un atelier au banc public à Marseille. Les gens des bancs publics à Marseille, ça leur a plu. Et très récemment, là, le 5 avril de cette année, on a fait une séance théâtre et doléances qui s'appelait Faire venir le jour, où l'articulation était plutôt du côté du sensible et qui était la dernière suite de cette affaire de doléances. Et pendant ce temps-là, on a continué bien sûr les cours sur le colonialisme, le post-colonialisme, sur, enfin voilà, on a des séries de cours tous les ans différents, et on essaye d'articuler de la philosophie tout ce qui est le plus classique, de l'histoire tout ce qui est le plus classique, mais c'est constamment débattu avec les personnes qui sont présentes, dont on ne sait pas bien, sauf le jour où on a parlé des doléances, où du coup les gens ont parlé un peu plus de leur intimité, on ne sait pas bien qui ils sont, mais où on peut voir, je dirais intuitivement, les niveaux de langue, l'accès simplement aux soins, les gens qui n'ont pas pu se faire soigner les dents, on se dit, bon, bah là, on touche vraiment des gens. L'université populaire n'est pas un énoncé factice. Et puis d'autres qui sont des gens très formés, qui ont envie de discuter dans un espace, qui est un espace où on aime le débat. Et donc, ou bien une alternative aux lieux du politique, qui sont des lieux de conquête de pouvoir, mais pas du tout d'élaboration démocratique des débats politiques. Alors, on n'est pas non plus étiqueté comme le lieu du politique, mais c'est une institution civile qui permet d'élaborer les choses politiques. Après, les gens y repartent et ils appartiennent à différentes choses ou à rien du tout. Mais en tout cas, c'est un lieu d'articulation assez fort. Dans ce contexte d'articulation assez fort, on a dernièrement eu le désir de davantage formaliser ces expériences et de les formaliser en étant dans la conviction que si effectivement l'expérience sensible, l'expérience politique et l'expérience de savoir pouvaient être conjointes, alors il y avait une nécessité de décloisonner les savoirs, le politique et en particulier tous les groupements politiques émergents et je dis le sensible, le savoir, bon, les trois, ok, je ne sais plus dans quel ordre j'ai dit, le politique, donc. Et on a proposé de fabriquer un lieu qui soit conjoint et qui ait la spécificité de tenir compte de la présence des corps. Il y a un lieu qui soit conjoint, qui soit un journal et un site, mais qui ne soit pas simplement un journal et un site dans la régularité d'une rythmique constante, qui serait constamment la même, un mensuel, un annuel ou je ne sais pas trop quoi, mais d'articuler un journal à des événements qui seraient des événements qui émergent comme ça, la politique de la société civile. Avec l'hypothèse que les différentes associations, et ça a été évoqué tout à l'heure, aujourd'hui elles sont quasiment sur un marché des associations. Quand on va au forum des associations de n'importe quelle municipalité, on assiste à une sorte de marché de toutes ces associations qui sont un peu concurrentes les unes des autres. Et effectivement, pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas un espace-temps infini et ils font des choix. Une année, ils vont à la chorale, l'autre année, ils vont à l'université populaire, et la troisième année, ils vont faire du basket, et puis ils reviennent éventuellement à l'université populaire, etc. Mais nous-mêmes, on est dans des logiques segmentaires cloisonnées assez fortes. On appartient à des revues, on appartient à différentes choses, et on est tellement actif dans ces lieux-là qu'on n'a plus le temps de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Et en même temps, on est dans un moment quand même de relatif essoufflement, peau de chagrin, parce que le contexte est rude. Le contexte est rude, et je ne crois pas que ce soit par le processus de culpabilisation que le désir revient. Voilà. Donc plutôt que d'être dans des processus de culpabilisation, je pense qu'il y a intérêt à être dans des processus de redynamisation. Et redynamiser, ça veut dire pouvoir avoir accès de manière plus rapide, plus simple à ce que font les autres. Et donc relier les différentes revues, relier des maisons d'édition, relier des groupements politiques, relier des pratiques artistiques engagées dans un seul lieu. Et ce lieu qu'on vient de créer s'appelle Tenon et Mortaise. Tenon et Mortaise, pas pour rien. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Tenon et Mortaise, mais c'est une figure de la menuiserie qui permet de faire tenir deux pièces de bois ensemble de différentes manières, avec cheville, sans cheville. Et Jean Borel, qui a été membre des Révoltes Logiques, la revue qui avait été faite avec Jacques Rancière dans les années 70, et qui travaillait beaucoup sur la question des diasporas et des diasporas roms et de la place des figures de colporteurs, des gens qui circulent dans les sociétés, affirmer que toutes ces figures circulantes, et en particulier la diaspora rome, faisaient Tenon et Mortaise parmi les peuples de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui, grâce à ces gens qui circulaient, comme des colporteurs, mais en particulier les Roms parce qu'ils circulaient, alors il y avait quelque chose qui circulait de peuple à peuple, qui sinon était clos. Et donc là, on n'est plus dans des logiques de peuple, on est dans des logiques de multitude d'associations. Je crois qu'on est dans un moment où il y a effectivement une effervescence créative, mais qu'elle est tellement disséminée et tellement illisible du point de vue des médias centraux qu'il y a quelque chose qui ne prend pas. C'est-à-dire que la multitude de processus ne fait pas pour autant puissance. Et donc la question qui se pose, c'est quand on a créé toutes sortes d'institutions civiles capillaires, parce que j'ai essayé de montrer qu'elles étaient capillaires, comment on fait pour qu'elles deviennent une puissance politique? Parce que l'objectif, c'est quand même de fabriquer une sorte de puissance politique. Il y a énormément de gens, j'imagine, dans cette salle, qui appartiennent à des groupes politiques, à des revues, à toutes sortes de choses. Mais en même temps, eh bien, c'est des mondes qui restent séparés. Alors, il y a bien sûr l'idée du caboteur qui va d'îlot en îlot, mais je pense que Tenon et Mortaise, il y a quelque chose de faire tenir ensemble et faire tenir un certain régime de la société dans un contexte qui est quand même un contexte où le désir de soumission à un chef reste fort, que ça soit du côté droit, et bien sûr on ne peut que le déplorer, mais moi je déplore encore plus du côté gauche. Et je pense qu'il y a quelque chose à inventer et à penser au-delà de l'État, dans des formes qu'on pourrait se donner, et donc Tenon et Mortaise, c'est un peu la logique. Donc plusieurs revues, Multitude, Vacarme, la maison d'édition Les Prairies Ordinaires, bon, toutes sortes de gens, et l'articulation avec des groupes d'artistes. Je vous montre parce que je la trouve très belle, moi, c'est une question de goût. Une artiste qui travaille sur les questions postcoloniales, qui travaille sur Madagascar, et qui a créé une série d'images qui permettent de mettre en scène des énoncés postcoloniaux classiques, Fanon, Aimé Césaire, etc. Et l'articulation à deux événements. Le premier événement, c'est un événement qui a eu lieu là, il y a 15 jours, qui s'appelait la Grande Parade Métèque, qui a eu lieu en Seine-Saint-Denis, et qui était en fait lié à un collectif de voisins, des gens de Romainville, des Lilas, du Pré-Saint-Gervais et de Pantin, et qui ont décidé de fabriquer une parade sur le modèle de la Gay Pride, une parade donc des fiertés métèques, et la veille des élections européennes, de dire voilà, il y a cette possibilité, et qui ont demandé, à cause de liens et donc de cette capillarité, à l'Université populaire du 18e de faire l'agora de cette grande parade métèque qui arrivait sous un chapiteau dans un jardin à Romainville. Donc quelque chose de tout à fait improbable. C'est pas un événement majeur de la société française aujourd'hui, mais c'est un événement symptôme. Et c'est un événement qui est ambitieux. C'est-à-dire que l'idée de ces gens du 93, c'est de faire en sorte que toutes les associations qui travaillent sur la question des étrangers aient envie de se réunir pour cette grande parade d'une manière régulière tous les ans et de faire le point. Et donc le premier numéro de Tenon et Mortaise porte sur des questions qui sont les questions des étrangers, de la grande parade, etc. Et le deuxième événement auquel s'est articulé, c'est les 10 ans de l'Université populaire du 92, qui va organiser sa fête de 10 ans dans une maison Aimé Césaire. Donc il y a des croisements qui se sont faits aussi en amont pour savoir à quel public on allait proposer ce jour-là. Par ailleurs, dans les logiques capillaires et de choses qui se croisent, il y a depuis 3 ans un festival à Belleville qui s'appelle Irruption, dont la logique est aussi de relier les différentes associations, pour le coup, de Belleville, de les faire travailler ensemble à ce festival. Et il y aura aussi la possibilité dans ce lieu-là, en particulier au moment où il y a des pièces de théâtre et des concerts qui traitent de la question de la frontière, possibilité de diffuser ce journal. Donc l'idée, c'est que le journal en question, il doit être diffusé dans des événements concrets, réels, d'une pratique politique, je dirais, articulée à la segmentarité et pas à du parti politique classique et pas à l'État. Voilà. Donc il y a quelque chose, alors c'est pas un interdit, c'est juste qu'on essaye de faire autre chose, et si l'occasion se prête de le diffuser ailleurs, on est tout à fait d'accord, dans une position critique avec toutes sortes de choses, et effectivement ça fonctionne. Les maires des différentes villes qu'on a traversées n'étaient pas enthousiastes de ce qu'on pouvait dire sur la position des politiques actuelles sur la question, par exemple, du droit de vote des étrangers. Bon. je pense que j'ai un peu épuisé mon temps. Donc pour les maîtres ignorants, je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des gens qui étaient en train d'essayer d'avoir une pratique politique, qui en ont vu les limites et qui ont eu le désir de revenir sur leur pratique par des savoirs. Il y a un site, je vous laisse regarder, c'est assez intéressant. Moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que les savoirs en question étaient, à mon sens, très fragiles et surtout problématisés de manière faible, etc. Donc, je ne suis pas totalement convaincue. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est le va-et-vient entre une pratique et une tentative d'élaboration, ce qu'on appelait quand même, il n'y a pas si longtemps, une praxis.
Je vous remercie beaucoup pour vos deux interventions très 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 riches. On va prendre les questions dans la salle.
Merci beaucoup pour ces interventions qui étaient vraiment passionnantes. J'ai une question pour Sophie. J'ai trouvé très intéressant les modèles d'université populaire que vous avez présentés. Moi, c'est des expériences que je ne connaissais pas bien. Ça me fait penser à deux choses. La première chose, c'est qu'on a discuté hier, notamment avec Olivier Voirol, de la raréfaction en fait, de la production de savoir critique en dehors de l'université. Le fait que l'université était, d'une certaine manière, avait acquis le monopole de la production de savoir critique. Et ce que je trouve un peu étonnant dans les modèles d'université populaire dont vous nous avez parlé, c'est que finalement, ces universités sont pensées comme des lieux de diffusion du savoir et pas comme des lieux de transmission, pas comme des lieux, pardon, de production. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'articulation enseignement. Recherche, on est simplement dans des lieux de... Bah, c'est la question que je vous pose en fait. C'est est-ce qu'il y a aussi la question de la production du savoir ? Et de la même manière que vous avez parlé de ces projets comme des projets dans lesquels les publics sont vus comme devant se ressaisir de leur subjectivité, ça me pose question. Je me demande quelle est la posture pédagogique. Lorsqu'on envisage que les publics ont cette nécessité de...
Non, c'est vous qui le disiez, hein, c'est pas vrai.
D'accord. Non, en tout cas, voilà, je me pose la question de la posture pédagogique qui me paraît justement très éloignée d'une posture à la rancière, très éloignée d'une méthode Jacques Cotto.
Enfin, ça dépend. Là, pour le coup, pour les maîtres ignorants, c'est une posture supposée à la rancière. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vrille parce que c'est des gens qui sont quand même Bac plus 5, mais qui vont choisir de parler de choses qu'elles connaissent mal ou pas et qu'ils auront potassé. Bon, pourquoi pas, mais je pense pas que ça soit le plus pertinent. Donc, enfin, moi, voilà. Après, la manière dont on pensait université populaire, c'était université, donc les savoirs universitaires en tant que tels, que ce soit à Lyon ou à Paris 18e, et sans transiger, sans transformer cette matière, sinon de tenter d'être dans une vraie adresse, c'est-à-dire de parler aux gens, voilà, d'essayer de parler. Voilà. Après, une vraie adresse, c'est quelque chose qui s'improvise à chaque fois, mais qui suppose d'avoir préparé dans cette visée, etc. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que les gens qui venaient là, et quand on leur demandait « mais qu'est-ce qui vous a attiré ?», c'est « j'étais un peu fatiguée, j'avais un sentiment d'être dépossédée par la routine du travail, par toutes sortes de choses finalement tout à fait ordinaires, mais peut-être plus fortes aujourd'hui qu'elles l'ont été dans d'autres époques, qui étaient plus vives du point de vue de l'espace public collectif. » Et donc, c'est un peu la possibilité de trouver du collectif. Alors, c'est autour de cette question du collectif que la parole adressée, qui est une parole professorale, on fait cours sur des choses qui pourraient être faites dans des cours à l'université. Enfin, c'est pas fondamentalement différent. Moi, je ferais pas cours différemment sur la Révolution si j'étais devant un public étudiant ou là. Et je trouve que ce public-là est plus facile, en fait, parce qu'ils ont envie. Ils ne viennent pas pour passer un diplôme. Donc, c'est pas un public captif, c'est gratuit, ils viennent comme ils veulent, et donc s'ils reviennent, c'est parce qu'ils ont envie. Et la chose, en termes de production, c'est pas produire des savoirs au sens classique, ou au sens universitaire du terme, c'est produire quelque chose avec ces savoirs immédiatement dans l'heure de débat. Et là, il se produit quelque chose. Et de ce point de vue-là, la réciprocité est forte, c'est-à-dire que honnêtement, c'est vraiment sans tricher, sans, pour moi, c'est souvent plus dynamisant pour la pensée, les questions qui se posent là, qu'un séminaire de recherche. Parce que les questions, elles sont très incisives souvent. Elles sont, et donc ça oblige à penser des choses qu'on n'avait pas pensées et à se déplacer. Et donc je pense que ce moment de la deuxième heure, c'est un moment de production de savoir, non pas au sens académique du terme, pour le coup, mais au sens de savoir en termes de praxis, justement. Alors, on n'est pas ce mot-là, mais c'est ça qui se passe, et c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, vous pouvez vous donner une idée de ce qui s'y passe, parce que le site de l'UP18, on a décidé de mettre les cours en ligne et les débats en ligne, donc vous pouvez aller en écouter. Après, il y a des désaccords. On avait pris le risque, une année, de faire un cycle sur l'Europe au Moyen-Orient. On balisait, on s'est dit, voilà, on va se mettre à dos tout le monde, ça va être très compliqué. Et en même temps, on tenait à réouvrir d'une manière autre Israël-Palestine, et c'était le moment des révolutions arabes. Donc c'était intéressant à différents degrés, etc. Et on avait un silence incroyable, et on a discuté d'une manière extrêmement intéressante. Franchement, c'est rare de discuter comme ça.
Ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est un certain plaisir à décloisonner le savoir, aussi le savoir institutionnel. Donc il y aurait peut-être un point commun entre vos deux interventions, c'est du côté du syndicalisme, il y avait un potentiel, et ce que vous avez décrit, c'est une réduction de l'inventivité dans les formes de transmission de savoir et de partage de savoir, avec une spécialisation de plus en plus grande. Bon, un des traits du travail universitaire, c'est précisément aussi cette, à un degré encore plus grand, mais hyper spécialisation des savoirs qui peut engendrer une forme de stérilisation, hein. Et ce que vous nous décrivez, c'est une espèce de plaisir partagé qui peut se faire dans d'autres lieux. C'est vrai qu'à un moment donné, on se dit oui, mais ça pourrait aussi se faire à l'université. C'est quand même pas. Et ça pourrait aussi se faire du côté du syndicalisme, parce que ça pourrait quand même avoir des effets peut-être politiques au sens large, plus grands, si c'était réinstitutionnalisé et si on pouvait trouver des formes de aussi de
disaient les gens qui sont venus nous voir pour créer celle de Lyon, c'était que justement ils voulaient un autre lieu. Voilà. Et du coup, je pense que ce qui, moi, c'est un imaginaire de toute manière, parce que je suis partie prenante, donc j'ai pas de. Le sentiment que j'ai, c'est que il y a une demande sociale de savoir. Je trouve pas du tout qu'elle soit si essoufflée que ça. C'est peut-être pas tout le monde, mais par exemple dans la grande parade. L'agora était après, et les gens pendant la parade ont dit mais quand même ça manque, qu'est-ce qu'on manque de dénoncer, on manque de choses, d'autres qui étaient plus politisés, qui trouvaient que c'était pas assez politisé la parade, etc. Donc ça a produit du débat dans la parade, et donc la décision des organisateurs, c'est que désormais l'agora sera avant. En tout cas on en est là, si on reprend. Donc il y a quelque chose qui se joue sur une demande sociale qui est réelle. Et qui me paraît assez palpable quand on crée ce genre d'institution civile. Et c'est une forme d'institution, l'institution civile. C'est-à-dire qu'il y a bien un lieu, un nom, une dotation culturelle de proximité pour avoir un local et faire de la com, un tout petit peu, des affiches, etc. Donc il y a quelque chose d'une auto-institutionnalisation qui passe par cette institution civile dans un moment où la perception de l'université, c'est que c'est devenu un lieu marchand. Et que là, c'est un lieu autre. Donc la question, c'est comment les universités échappent ou n'échappent pas à cette logique marchande. En fait, elles n'y échappent pas. Elles créent des diplômes qui sont spécifiques pour se différencier les unes des autres. Elles créent des filières d'excellence pour attirer les bons étudiants dans ces filières d'excellence qui peuvent être lettres, sciences politiques, enfin, des choses improbables il y a 10 ans. Et donc, elles sont dans cette logique du marché du diplôme. Voilà. Donc, l'université populaire, dans une certaine mesure, son ambition, c'est d'échapper à cette logique-là et de réinstaurer donc un autre type de rapport au savoir, tout en maintenant l'idée que des savoirs existent et que c'est dommage de ne pas les diffuser. Donc, quand il y a un cours sur qu'est-ce qu'être cynique, bon, bah, c'est vraiment un cours de philosophie classique. Hein, après, le débat sur est-ce que le cynisme est à une actualité aujourd'hui, ça devient un enjeu plus intéressant, enfin, au sens d'actualité, plus spécifique, je ne sais pas.
Je pense qu'il y a en effet dans ce que mon exposé qui pouvait paraître très lointain visait à souligner, c'est ce processus effectivement de cloisonnement des univers, pour ce qui me concerne, pour ce que je connais des univers militants, et qui produisent effectivement cette espèce d'appauvrissement de la réflexion théorique, intellectuelle. Et c'est pour le coup, aussi bien par ma pratique de chercheur que par ma pratique militante, des choses qu'on retrouve assez fréquemment. Je suis assez d'accord sur le diagnostic. C'est un effet de sectorisation croissante du monde social qui est lié au fait que, par exemple, j'évoquais un peu le rôle de la codification étatique, des congés de formation syndicale, etc. Pour un syndicaliste aujourd'hui, l'essentiel de son temps de travail syndical, c'est la participation à une multitude de réunions de négociation annuelles obligatoires, diverses et variées, avec des interlocuteurs à tout niveau, etc. Et le constat partagé des syndicalistes, c'est qu'ils passent leur temps en réunion à faire du dialogue social plutôt qu'à faire du dialogue avec leurs collègues de travail pour véritablement se saisir et échanger avec eux sur ce que sont leurs préoccupations. Donc il y a ce diagnostic, mais qui pour autant ne doit pas conduire à une espèce de constat désenchanté, fataliste, et je suis assez d'accord avec Sophie Anish quand elle parle de l'effervescence. Et pour le coup, je serais assez aussi dubitatif sur cette idée qu'il y aurait une raréfaction de la production de savoir critique en dehors de l'université. Je pense qu'il y a effectivement une multiplication des lieux de savoir et que ces lieux sont cloisonnés, pas visibles, produisent des espaces publics locaux très 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 restreints, et qu'un des enjeux effectivement politiques, stratégiques, actuels, essentiels, c'est de faire du lien entre tout ça. Si on regarde, alors moi je ne connaissais pas tout le monde mortel, c'est preuve supplémentaire qu'il y a des trucs qui existent qu'on ne connaît pas, mais la multitude de petites, alors de canards locaux qui sont des journaux de critique sociale et d'enquête. Alors il y a le Fakir à Amiens, il y a le Ravi à Marseille, il y avait le Télescope dans la région Picarde qui était par internet. Il y a une multitude de petits journaux comme ça qui sont faits aussi simplement parce que l'université de masse, elle produit des tonnes d'intermédiaires culturels qui ont fait des masters, des thèses, qui ne sont pas retrouvés dans la carrière de chercheur et qui continuent à faire de la recherche comme ça. Si on regarde dans le monde du travail, l'expertise qui est produite par les CHSCT, qui est produite par, pour le compte des CE en matière de stratégie économique, en matière de conditions de travail, etc., il y a des tonnes de savoirs qui sont produits, mais qui sont produits dans une logique purement instrumentale, parce que c'est commandé à un moment donné par des représentants syndicaux pour bloquer un plan social, pour essayer de freiner une restructuration dans l'entreprise, etc. Mais il y a des tonnes de savoirs qui existent et qui ne sont pas forcément partagés. Parce qu'on a aussi des intellectuels spécifiques qui sont prises dans leur logique professionnelle, qui sont aussi souvent des logiques de marché, en l'occurrence dans le cadre de l'expertise au travail, c'est souvent le cas, et qui n'ont pas forcément d'occasion de partager ça. Mais pour autant, il y a beaucoup de ces experts qui sont des individus politisés, militants par ailleurs, etc., et qui pourraient avoir besoin d'espace pour réinvestir ça. Mais par ailleurs, moi, je ne crois pas que ce soit nécessairement une question aussi de lieu, dans le sens où il y aurait des lieux qui seraient acquis à la rationalité marchande et d'autres lieux qui seraient des lieux préservés de ça. Je pense que, moi, de mon point de vue, le constat que je dresse sur les organisations syndicales, syndical. Il y a en effet des logiques d'institutionnalisation qui poussent à une professionnalisation du travail syndical, mais qui fait de ces organisations des appareils de mobilisation qui restent incontournables. Et l'enjeu, c'est justement d'essayer de trouver des dynamiques et des logiques qui puissent les traverser et qui puissent un peu les subvertir à tout niveau. Et je pense que c'est ça l'enjeu. C'est pas et pour le juste pour terminer sur l'université. Je participe avec Sophie Leroux, avec qui je travaille pas mal sur le syndicalisme. Elle a monté, moi je me suis rapporté après coup là-dessus, un petit diplôme à Lyon 2, alors qui a un intitulé qui est discutable, mais c'est syndicalisme et représentation professionnelle, mais en tout cas le projet de ce master pro, master professionnalisant, donc qui rentre un peu dans cette niche de voilà, il faut que l'université s'ouvre à la société. Donc évidemment la compréhension commune, c'est s'ouvre aux entreprises, mais il y a aussi des possibilités de nouer des partenariats avec des organisations de la société civile. On fait un boulot, il y a l'Observatoire de la répression syndicale on s'est appuyé sur nos ressources universitaires à Lille pour créer un petit observatoire régional qui nous a permis de bosser avec les syndicats locaux sur ces questions, en s'appuyant sur la Maison des sciences de l'homme de Lille, donc en s'appuyant sur les ressources institutionnelles de l'université. Et c'est ce diplôme dont je parlais à Lyon 2. C'est un diplôme qui permet de faire se rencontrer des étudiants en formation initiale qui, d'une manière ou d'une autre, veulent se dessiner vers le métier de, en gros, l'expertise au travail, le journalisme social, des questions comme ça. Et puis des syndicalistes qui sont en formation continue, qui sont en reprise d'études. Et donc dans une même salle de classe, on a ce mélange de public qui est a priori improbable, avec cet aspect aussi que par le biais des organisations syndicales, on touche aussi des profils sociaux qui sont en général socialement beaucoup plus diversifiés que dans les organisations politiques.
De toute manière, l'idée, c'est pas d'opposer, là, tu as parfaitement raison, mais il se trouve que ces gens-là, y compris nous, les membres de cette université populaire qui l'avons créée, avons déserté, dans une certaine mesure, en ayant été partie prenante longtemps, des structures politiques et des structures syndicales, pour des raisons multiples et variées. Et donc, à un moment donné, on aurait pu se dire, on a perdu, on n'arrive pas à faire entendre ce qu'on souhaite, on ne peut plus, c'est tout insupportable. Donc, on rentre chez nous, basta. Donc, la question, c'était quelle alternative, plutôt que juste de rentrer chez soi, sachant que cette alternative peut permettre de se redonner du courage pour y retourner, et effectivement, comme tu dis, subvertir. Moi, ça m'arrivait à un moment donné, je me suis dit, je vais retourner voir ce qui se passe au SNCS, parce que je suis au CNRS. Et je suis arrivée à un mauvais moment, parce que le SNCS avait choisi de co-signer avec la direction de l'Institut, avec Bourdelais, le texte pour finalement la réforme Fioraso. Et donc, je trouvais ça insupportable. C'est-à-dire que je me suis dit, mais cette absence de conflictualité au cœur du syndicalisme entre la direction gouvernementale d'un institut et les chercheurs, je me suis dit, je ne peux pas. Je retourne à nouveau dans d'autres lieux. Et j'ai un peu protesté, et j'ai expliqué, mais quand même, c'est du corporatisme. C'est-à-dire que si on signe le même texte, c'est vraiment que c'est plus du syndicalisme, c'est vraiment du corporatisme. Et on m'explique... on ne peut pas vraiment faire autrement parce que ça nous paraît difficile de refuser tout, toutes sortes de discours de conformisme, d'acceptation, de soumission. Et donc je nourris per necessita familiale. Je m'amuse parce que je me dis que merde, je m'en vais à nouveau. Et on me dit, mais ça veut dire quoi? Je dis, ça veut dire PNF, Parti National Fasciste, où on avait toutes sortes de bonnes raisons d'adhérer pour des nécessités familiales. Et là, je me suis fait insulter. C'est-à-dire, le fait de dire qu'est-ce que ça a été le corporatisme, quel genre d'argumentaires ont été utilisés pour le légitimer, etc. Bon, donc il y a quelque chose qui n'est pas mûr. Nos outils les plus habituels ne sont pas disponibles, et ils sont très récalcitrants. J'aimerais bien pouvoir aller au CCS et le subvertir, mais pour le moment, c'est moi qui serais subverti, j'ai pas envie. L'auto-subversion n'est pas à mon fort. Peut-être. D'autres questions dans la salle?
Merci pour cette intervention. Je me demandais à propos des universités populaires, l'expérience que vous avez partagée avec nous. Vous avez parlé de l'importance finalement de réunir, de faire des ponts, d'être un peu un ciment de plusieurs expériences. Et je me demandais du coup si dans l'expérience que vous avez actuellement dans l'Université populaire 18e, vous faites aussi des ponts avec d'autres expériences d'université populaire. Par exemple, est-ce que vous travaillez encore avec celle de Lyon, ou est-ce qu'il y a des ponts, je sais qu'il y en a une à Bordeaux aussi. Et est-ce que du coup il y a des choses qui se créent aussi à ce niveau-là? Parce que pour moi, l'université populaire, ce que j'avais pu en lire, c'était un mouvement, enfin, c'était défini comme un mouvement initial, presque j'ai compris qu'il serait né, en tout cas en France, en la période de l'affaire Dreyfus. Je ne sais pas si c'est. Voilà. Et du coup, comment est-ce que vous pouvez. Enfin, comment est-ce que vous pensez les liens entre ces différentes expériences-là?
Expériences du passé et d'aujourd'hui, ou les différentes expériences, les deux. Du passé et d'aujourd'hui, dans une certaine mesure, ça permet de. Pour le coup, je trouve que c'est une histoire monumentale, au sens classique du monument. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir le courage de tenter la chose, de le faire, et de se dire qu'il y a eu des ancêtres. Et il se trouve qu'il y a déjà eu une université populaire, on a appris ça dans le 18e, qui était. Animée par une femme qui s'appelait Emeline Veil, je ne sais plus quoi. Il y a un chercheur en histoire qui a fait des enquêtes dessus, qui voulait savoir si on connaissait des choses. On lui dit non, c'est toi qui vas tout nous apprendre, on ne sait rien, mais on est ravis d'apprendre, on va mettre l'information sur le site. Enfin bon, voilà, on essaie de faire circuler cette histoire monumentale de l'éducation populaire et de l'université populaire. Après, les universités populaires en France, elles sont extrêmement nombreuses aujourd'hui et elles sont effectivement reliées dans une espèce de réseau des universités populaires et qui organise très régulièrement un printemps des universités populaires. Le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres sur la place que pourrait prendre Michel Onfray comme figure tutélaire. Donc nous, l'université populaire du 18e, on ne veut pas de Michel Onfray comme figure tutélaire. Et le débat a beaucoup de mal à s'ouvrir au sein de ce réseau. Donc, on n'est pas extrêmement enclin à vouloir mettre de l'énergie là. C'est un tort, je suis convaincue que c'est un tort, parce que c'est un réseau important, mais je pense qu'on a intérêt à arriver avec plus de biscuits, parce que nous, on est tout petits, et que c'est très difficile, et que c'est très difficile, y compris avec des gens proches. C'est-à-dire que moi, j'en ai discuté avec Philippe, qui a co-signé des livres avec Michel Onfray. Je lui dis, mais c'est pas possible, je suis vraiment pas d'accord. En plus, il m'envoie ça la veille du jour de l'an, je lui dis, bonjour pour la bonne année. Et comme ça, on a un débat qui n'est pas résolu. Voilà, il n'est pas résolu et c'est dommage. Mais je ne crois pas qu'il y ait, du point de vue de Philippe, il y avait la scène intellectuelle où on débat sur le contenu de ce que raconte Michel Onfray comme intellectuel, et puis il y a l'université populaire. Pour moi, non, c'est pour eux. C'est absolument pour eux et on ne peut pas distinguer. Je ne sais pas, on ne peut pas se couper en X morceaux. Je pense que je suis la même dans mon laboratoire où j'ai créé une équipe qui s'appelle Transformation radicale des mondes contemporains et dans mon université populaire. Et ça se tient. Et je pense que pour Michel Onfray, ça se tient aussi. Et je n'y crois pas. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Après, on a des liens très forts qui se sont noués avec l'université populaire de 92, en tout cas un certain nombre de gens qui nous ont invités, avec qui on a préparé ce numéro. Et ce numéro de Tenon et Mortaise va servir pour leur 10e anniversaire. Donc, les liens se tissent, mais ils sont pas. Voilà, on veut pas de figure tutélaire, on veut pas de grand chef, on veut pas que l'exercice de l'université populaire, qui nous paraît être un exercice de refus de la soumission, puisse prendre une quelconque forme de soumission institutionnelle. Voilà, bon, ça c'est la position de l'université populaire du 18e. Du coup, c'est pas simple. Voilà. Mais on retrouve des questions qui sont des questions qui sont centrales dans la société française aujourd'hui. Quel modèle d'articulation des pratiques et dans une certaine mesure, des idéaux? Quel idéal de la démocratie ou du débat démocratique par rapport à ce que c'est une figure tutélaire? Moi, je trouve que le désir de soumission aujourd'hui est extrêmement fort et que notre effort doit être de lutter contre ça. Pas d'abonder, que ça soit du côté du politique ou du côté de l'université populaire. Voilà. Donc, après, le débat est ouvert et comme on peut.
Il y a des enjeux marchands aussi qui se réintroduisent autour de la publicité faite
et médiatique, parce que Michel Onfray est sur France Culture l'été.
Non, mais Michel Onfray, les cassettes de Michel Onfray pour les librairies, notamment de français. Clermont-Ferrand, j'avais vu ça, ça m'avait beaucoup impressionné.
Donc, effectivement. Et puis il y a le sentiment que c'est formidable qu'il ait remis en scène la notion d'université populaire, et que c'est dommage qu'elle soit confisquée par une seule image.
Et si c'est partagé en même temps ? Si c'est partagé par deux expériences d'université populaire, c'est un moyen justement de...
Bah c'est dans cette diversité qu'il y a quelque chose qui peut effectivement rendre moins compact l'apparition d'université populaire. Mais il y a des gens, l'énoncé université populaire est tellement associé à Michel Onfray que avant même que vous ayez ouvert la bouche sur ce que vous faisiez, on vous dit ah, un rose sur la bête. Et on dit oui, bon, ok, on peut être d'accord sur ce qu'il a écrit, sur Freud, sur ceci, sur cela. Mais pour autant, faut-il abandonner la notion d'université populaire ? Moi, je crois pas, je crois qu'il faut pas.
C'est là où l'absence de critique médiatique peut poser problème. On voit à quel point l'univers est saturé de représentations médiatiques qui construisent ce que vous appelez des figures tutélaires ou des, on peut appeler ça des gourous. Donc pour chaque concept, il faut son gourou. On parlait tout à l'heure des psys médiatiques, il y en a quelques-uns comme ça, et qui finissent par obstruer le débat. Donc mais en même temps, à ne pas pouvoir investir des places qui soient un petit peu... Parce que le local, c'est bien, et il y a une richesse, des expériences subjectives, et puis il y a une expérience sensible, effectivement, qui est particulière et qui est importante de transmettre. Mais en même temps, l'échelon un petit peu plus généralisant est quand même... C'est difficile de s'en priver quand même.
C'est un peu l'idée, mais comme on ne peut pas l'imposer, il faut la reconstruire, cette échelle. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut la reconstruire avec cette multiplicité et avec les outils actuels. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, chacune des associations, petites, grandes, dispose d'un site internet. Peut-être que si on reliait ces sites et que du coup on fabriquait la possibilité de montrer comment se fait l'arborescence, les liens, le réseau tout simplement, peut-être que ça permettrait de pallier cette difficulté. C'est un peu le pari de Tenon et Mortaise. Au début, on sollicite, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir en parler. Et on va agréger comme ça des foyers de pensée, de chercheurs, des foyers de pratiques artistiques, des revues, et à un moment donné, si la mayonnaise prend, il y aura un lieu alternatif qui serait au moins un lieu de visibilisation, avec l'idée qu'il faut partir des savoirs les plus accessibles, vulgarisés, ne serait-ce qu'avec des articles qui ne sont pas trop longs, et qu'à partir de ces articles-là, ou de ces images-là, ça peut être aussi des images, la personne qui vient visiter ce site puisse avoir accès aux choses les plus sophistiquées, les plus spécialisées, les plus complexes, et éventuellement à l'océan de ce que constitue le réservoir d'une revue sur 20 ans. Donc il y a quelque chose là, d'un pari, de donner accès, non pas à la chose qui est dans un flux, mais à une certaine possibilité d'élaborer par des chemins qu'on va effectivement s'inventer par sa propre manière de circuler sur ce lieu. Après, peut-être que c'est juste un pari, une rêverie, j'en sais rien, pour le moment c'est trop tôt. Mais en tout cas, c'est pour répondre à ce problème-là. Parce qu'effectivement, à un moment donné, dans son université populaire du 18e arrondissement, on se dit, c'est bien, on a 50 personnes formidables qui viennent régulièrement, même on est étonnés, parce qu'on est toujours un peu inquiet, c'est quelqu'un ce soir, c'est vraiment pas beau. Si j'étais pas obligée de faire cours, je serais restée chez moi, ce genre de choses. Et on est toujours étonné de voir du monde, donc on est aussi ravis de voir du monde. Mais on se dit, c'est trop petit par rapport à l'énergie qu'on fait. Alors, première chose, on s'est dit, on met les cours en ligne. Et donc, si les gens ils sont au courant, ils peuvent aller écouter au-delà des 50 qui étaient là. Mais ça ne nous paraît pas suffisant, donc on fait des liens avec d'autres choses. Mais ça ne nous paraît pas suffisant, donc on en est là.
Juste une petite question rapide. Comment il faut la poser aussi la question. Pour Lyon, je le sais un petit peu parce que c'est, il y a quand même un système de subvention aussi. Hein. Et là, pour l'initiative parisienne,
c'est ce qu'on appelle une dotation culturelle de proximité. Donc on touche une petite dotation de 3000 euros par an qui permet de louer les locaux, les films, si on projette des films, de fonctionner. Voilà, c'est un budget de fonctionnement. Et les cours sont donnés gratuitement. C'est-à-dire que nous, on n'est pas rémunérés du tout. La plupart des choses sont gratuites. Et on a du coup un petit volant de manœuvre qui nous a permis de financer le livre des doléances, par exemple. Voilà. Donc on essaye, on a un peu une économie frugale, comme dirait mon collègue, et cette économie frugale nous permet de faire des petites choses. Bon, ça ne suffit pas pour faire ça. Ça, on a obtenu une subvention de la préfecture du 93, en tant que, je ne sais plus l'énoncé exact de la ligne budgétaire, mais... sur la citoyenneté, je sais pas quoi. Enfin bon, voilà, il y a des lignes budgétaires, donc ça peut fonctionner. Et pour faire le site, on est sur une ligne budgétaire qui est justement à l'articulation des enjeux qui nous intéressent, qui est articulée la question du livre et des événements. Et du coup, ça, c'est pile poil, parce que dans le livre, il y a les revues, et nous, on a à la fois des revues et des maisons d'édition, donc on ne sait pas combien on va avoir, et ça passe en juin, région Île-de-France. Moi, je suis pour utiliser l'argent public. Hein. Je pense que c'est de la responsabilité de l'argent public de fabriquer ces choses-là. C'est-à-dire que dans l'échange CULA, il y a ça. On paye des impôts pour avoir de l'éducation et aussi de l'éducation populaire.
Je posais la question aussi par rapport aux cours. Justement, ça m'intéressait de savoir si les enseignants étaient rémunérés ou pas. Parce qu'en fait, si ce n'est pas le cas... De facto, en fait, la production des savoirs que les enseignants ensuite présentent au public dans ces lieux se fait à l'université. Donc, l'imbrication entre l'université publique et ces lieux alternatifs est donc dans les faits profonde. Et c'est pour cela que j'écoute votre discours à la fois avec beaucoup de fascination et de sympathie, vraiment, et à la fois avec un peu de réserve, juste sur le fait que je me pose vraiment profondément la question si ces initiatives-là ne devraient pas quand même avoir lieu au sein de l'université. Et j'écoute tous les arguments que vous avez donnés. Hein,
pourtant... Moi, j'ai une autre question, c'est que nous, on n'est pas universitaires, aucun des trois. Donc, on n'a pas accès, de toute manière, au public étudiant universitaire et au lieu universitaire. Moi, je suis directrice de recherche au CNRS, ouais. Et dans ce pays un peu bizarre, il y a un antagonisme délirant entre le CNRS et l'université. Moi, j'aime bien enseigner. J'ai été enseignante très jeune, à 21 ans. Je me suis retrouvée au CNRS à un moment donné, et je ne peux pas en sortir. Donc, il se trouve que, pour moi, c'est un lieu possible aussi pour enseigner. Et je ne l'ai pas ailleurs, et quand j'ai essayé de retourner à l'université, la violence à l'égard du CNRS est totale. Sans doute que ce n'est pas la seule cause, mais en tout cas... C'est une cause qui est absolument dissible et qui est dite. Qui est, vous êtes déjà des privilégiés, on ne va pas vous donner en plus un poste, tatata, enfin, très très violent. Donc peut-être, mais moi je ne suis pas universitaire et mes deux collègues sont profs de classe prépa, ils ne sont pas universitaires non plus.
Voilà. Non, mais je pensais plutôt à l'initiative lyonnaise, hein, parce que là, je pense que...
Plus universitaire à ce moment-là.
Oui, non, mais là, l'imbrication entre l'université... Et l'université populaire est profonde, je crois.
Je pense surtout qu'elle l'université populaire de Lyon, entre ce que je vous ai raconté les deux, trois premières années et maintenant, c'est deux mondes. C'est pas la même chose. Après, je sais pas bien, je sais que Sophie Leroux fait des cours aussi à l'université populaire. Et ce que je sais, c'est qu'il y a plutôt trop d'enseignants. Mmh. Et donc, dans la difficulté, c'est de répartir les espaces et le temps disponible pour que les gens qui ont envie d'être dans ce lieu-là puissent le faire. Donc pourquoi ils le font là et pas à l'université? C'est sans doute qu'ils ont un sentiment de plus grande liberté là, mais pourquoi ils n'ont pas ce sentiment de liberté à l'université? C'est un vrai débat en soi. Après, moi, je ne demanderais pas mieux que de le faire à l'université, mais voilà, je ne suis pas à l'université.
Par contre, moi, je comprends pas bien le sens de cette question parce que précisément, je sais pas, je pense à un ami qui est parti, qui fait une université populaire en Tunisie ou quoi. Je vois pas pourquoi on devrait remettre ce type d'espace au sein de l'université. Enfin, j'essaie de comprendre derrière. C'est une autre question par rapport à votre question, mais vraiment, je comprends pas pourquoi est-ce que ce serait mieux de le remettre au sein de l'université précisément.
Non, mais j'explique quand même que tout à l'heure, dans le débat, à un moment donné, j'avais l'impression que c'était un peu comme abandonner l'université à une logique marchande et du coup créer ailleurs ce qui devrait être véritablement une université. Et c'est ça qui me dérangeait un petit peu. Enfin, cette espèce de je mets un mot fort là-dessus qui serait une espèce de fuite.
C'est pas du fait puisqu'on y est pas. Mais je pense que le problème, c'est que, enfin, j'en sais rien, moi j'ai connu des gens qui ont fait des luttes assez fortes en 2009, mais ensuite qui se sont rangés, qui ont été les premiers à adhérer au LABEX, à toute la ribambelle de choses qui forment des carcans quand même, enfin, c'est des carcans de la pensée, des formes possibles d'action. Non, vous trouvez pas? Moi je trouve, hein.
Ah ouais. Ça, c'est un autre débat.
Bah, en même temps, ça fait partie du débat, parce que la question de faire un projet ANR où il faut expliquer, y compris quel livre on va produire avant même d'avoir fait la recherche, moi j'appelle ça un carcan. Mais bon, après, on peut se débrouiller avec, parce qu'on peut fabriquer le carcan et puis faire ce qu'on a à faire à côté. Voilà. Non, mais d'accord, mais c'est quand même une logique schizophrène, c'est quand même pas un lieu d'épanouissement majeur d'être
là.
Dans...
Ouais,
disons que j'ai du mal à me dire. Enfin bon, c'est vrai que c'est un autre débat, mais je crois pas. Je crois que quand on est obligé de cliver ce qu'on dit à l'institution et ce qu'on fait, et ben ça a des effets sur le public, parce que le public, lui, il passe l'agrégation qui est celle de l'institution, il passe pas à autre chose. Donc de toute manière, quand on est, enfin, il me semble qu'il y a quelque chose de ce clivage qui n'est pas si subversif que ça. Voilà, je pense que ce clivage est plutôt négateur de l'inventivité, et il est surtout extrêmement producteur d'inféodation pour les plus jeunes chercheurs, qui eux ne peuvent pas se soustraire facilement et qui sont embauchés dans des contextes justement ANR, qui sont des contextes quand même assez léonins et terribles. Tout à l'heure, il est parti, la personne qui évoquait l'université comme lieu de lutte aussi, et oui, mais c'est terrible. C'est-à-dire que quand même, bah, je commence à vieillir un peu, donc malgré tout, c'était plus simple dans ma génération de débuter. C'était plus simple. C'était moins violent, c'était moins... je sais pas, on était moins dépendant du désir de nos aînés. C'est-à-dire qu'on faisait quand même beaucoup plus le mouvement d'une quête de recherche qu'on construisait sans être dépendant de ces grosses machineries. Donc moi, je trouve pas que ce soit... Voilà, c'est ça aussi, la marchandisation. C'est que... c'est des gros budgets. Moi, j'ai été surprise au moment de la création de ces institutions, parce que j'avais fait des recherches collectives dans le contexte du CNRS, où on était sur des budgets à 10 000 euros. C'est des petits budgets. Donc quand on passe de 10 000 à 200 000, c'est pas du tout les mêmes enjeux. C'est pas des enjeux de fonctionnement, c'est des enjeux marchands.
Bien sûr, mais ça permet d'embaucher des jeunes chercheurs.
Ou de pas les embaucher avec des statuts.
On va conclure sur l'éducation populaire qui est loin des ANR avec ses autres acronymes et qui permet d'expérimenter pour les chercheurs, on va dire, donc les universitaires au sens large et les chercheurs, des formes de subjectivité et de réflexivité sur le savoir qui sont l'occasion aussi de retrouver un plaisir de parler, mais qu'on peut aussi avoir avec ses étudiants. Je suis sûre.
Évidemment, c'est ponctuel pour les chercheurs.
Mais moi, j'étais quand même étonnée de quelque chose qui s'était déplacé. C'est-à-dire que le désir de savoir et le désir de diplôme est maintenant assez disjoint. Voilà. Et il y a quelque chose où là, je ne sais pas ce qu'il en est dans différents lieux, mais dans certains lieux, il y a certains étudiants qui sont déçus par ce qu'ils ont obtenu comme savoir pour avoir leur diplôme, ils sont contents d'avoir leur diplôme, et ils vont chercher le savoir ailleurs. Ce qui est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'ils trouvent que les savoirs qu'on leur fournit, qu'on leur donne, ne sont justement pas assez actifs socialement. Et que c'est des savoirs morts, et que bon, ils ont leur diplôme, ils sont contents, mais que dans une certaine mesure, ça ne satisfait pas leur désir de savoir, qui suppose des savoirs beaucoup plus en prise avec le monde tel qu'il a. Tel qu'il est. Alors en histoire, c'est particulièrement vrai. Hein. Le positivisme a quand même tué l'espace critique de manière assez radicale et dans beaucoup de lieux. Bon, il y a d'autres possibilités, mais c'est vrai que c'est pas simple.
Si les étudiants de l'université en désirant savoir, je dirais que quelque part l'université a fait son travail. Parce que le savoir, c'est quand même quelque chose, et la culture, c'est quand même quelque chose qui
doit se faire. Ils s'arrêtent à l'université pour trouver d'autres lieux. C'est ça que je suis frappée par les gens qui sont en master et qui me disent bon, bah, moi je suis déçue, je suis contente, j'ai mon master, mais basta.
Oui.
Et je vais faire autre chose parce que vraiment je suis déçue. Je pensais vraiment passer à autre chose et en fait, non, c'est aussi routinisé, on ne s'est pas vraiment adressé à nous, on ne nous a pas vraiment formés, etc. Je suis frappée par ça, hein, le peu que je peux voir.
D'accord. Vont-ils le trouver un peu ?
J'en sais rien.
Si le désir de savoir des enseignants ne doit pas être stimulé par le désir d'enseigner des enseignants, mais il y a bien souvent aussi des routines professionnelles qui font que le travail enseignant il s'appuie sur la reproduction d'année en année des mêmes cours magistraux qui sont à peine retouchés. Enfin, moi je suis chargé de recherche CNRS aussi, mais j'enseigne régulièrement et c'est lié aussi aux conditions d'exercice du métier. Je pense que quand on est un CNRS qui est amené à enseigner, on a un petit peu plus de recul pour repenser ses enseignements, pour décider d'enseigner une année et de prendre du recul l'année suivante pour revenir dessus, pour choisir les enseignements qu'on veut faire. Les collègues maîtres de conférences ou professeurs qui ont un volume horaire à faire chaque année, etc., n'ont pas forcément les mêmes conditions. Mais c'est vrai qu'il y a aussi... je pense que... Bon, On peut pas réduire l'expérience de l'institution universitaire à des expériences déçues. Je pense qu'il y a aussi énormément d'expériences, d'ouverture, de nouveaux horizons de pensée qui donnent envie de continuer à aller enseigner.
Mais je dis que c'est important de l'entendre. Qu'il y a ça aussi et que c'est un contexte. Et que ce contexte est quand même noué en partie au contexte marchand. Et à l'évaluation, à toutes sortes de choses. Fuite ou pas fuite, je crois que c'est autre chose.
Là, on va s'arrêter sur ces quelques mots, prendre une petite pause avant le concert.
Non, avant l'apéro.
Avant l'apéro, pardon.